Pierre Glaude, professeur à l'université Paris 4, vous faites partie de ce groupe, non pas de m'aidants, mais de grands lecteurs et de lectrices de la Compagnie des auteurs qui viennent donner librement chaque jeudi leur regard sur notre thème de la semaine. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors vous êtes un peu aujourd'hui dans une perspective à rebours, pour reprendre un titre de Huysmans, par rapport à notre émission naturaliste, puisque vous avez envie de nous parler d'un Zola qui serait d'abord un auteur romantique.
Oui, en même temps, il ne s'agit pas de nier, bien entendu, que Zola soit naturaliste. Hein, mais je voudrais simplement nuancer cette idée que ses convictions, sa méthode, son univers romanesque sont anti-romantiques. Bien sûr, la dette de Zola est immense à l'égard des théories scientifiques de son temps qui l'éloignent de l'épistémologie romantique, hein, la physiologie, l'évolutionnisme, ce qu'on appelle le darwinisme social avec l'idée de struggle for life, ou encore
battre pour la vie.
Voilà, hein, la science expérimentale que vous évoquiez tout à l'heure à propos de Claude Bernard. Et de même, il ne s'agit pas de nier les efforts de Zola pour faire du roman une étude, ou encore, comme on le dit parfois, une tranche de vie. C'est-à-dire pour, au fond, briser la plupart des ressorts du romanesque traditionnel, parce qu'il juge qu'ils sont d'un idéalisme faux. Et l'exemple de l'amour, de ce point de vue, est extrêmement éclairant, puisque on ne peut pas dire, franchement, que l'amour soit un grand sentiment chez Zola.
Mais plutôt, le sexe est plutôt présent, davantage que l'amour.
Il me semble, en effet. L'amour, en tout cas, il y voit un appétit naturalisé. Il le réduit, comme vous le disiez, à l'assouvissement sexuel. Et il en montre d'ailleurs les aspects surtout brutaux et désenchantés. Par rapport à l'enchantement de l'amour romantique, il montre l'amour sous un jour assez désenchanté. Mais, et c'est là la nuance que je voulais apporter, il me semble que subsiste chez Zola un tempérament qui résiste à la science, au fond. Une sorte de refoulé romantique, si vous voulez, qui fait retour et qui creuse un écart entre, comme l'a dit très bien Henri Mitrand, le naturalisme théorique, sa théorie, et sa pratique d'écrivain naturaliste.
Et pourquoi avoir refoulé, d'après vous, alors, ce romantisme chez lui?
Parce que je crois que c'est un homme à l'écoute de son temps et que le temps est au positivisme, le temps est au scientisme et que le romantisme s'est d'une certaine manière abattardi en un ensemble de clichés que Flaubert lui aussi a en horreur et qu'il retourne bien volontiers dans ses propres romans. Mais néanmoins, il me semble qu'il y a différentes raisons qu'on peut invoquer pour souligner, nuancer en tout cas, ce naturalisme.
Alors, comme par exemple.
Alors, il me semble d'abord, le pessimisme qui domine quand même les Rougon-Macquart s'écarte, me semble-t-il, de l'objectivité scientifique. Lorsque Zola aperçoit en l'homme, comme l'avait bien montré Deleuze, une fêlure originelle, hein, lorsque il a l'intuition de sa part obscure, eh bien, il glisse. C'est une idée d'ailleurs assez commune, hein, communément partagée par la critique. Il glisse dans le mythe, dans la mythologie, et la littérature devient souvent pour lui une façon de réécrire des mythes archaïques, de les actualiser, de les moderniser. Hein, le péché originel a sa traduction au fond dans l'implacable hérédité, surtout quand elle est une tare, comme c'est le cas dans la famille dont il étudie le devenir, ou encore l'hubris d'un désir aveugle, ou encore l'inceste, hein, dont on sait qu'il est à l'horizon de la curée. Mais plus généralement, les forces de vie et de mort qui traversent la nature et la société, dans l'œuvre de Zola, me semblent prendre la forme de puissances terrifiantes, anonymes, qui nous reconduisent au fond à un imaginaire, qui nous ramène aussi, qui renoue un lien avec Hugo ou Chateaubriand.
Alors pour terminer, c'est donc un lyrique impénitent que vous voyez en Zola, Pierre Claude.
Oui, Henri Mitran le disait au début de la semaine, il a été poète, il a écrit des vers, et il me semble qu'il y a chez lui une énergie, un souffle lyrique qui apparaît très bien dans ce qu'il dit de Flaubert, justement, lorsque il évoque l'éducation sentimentale. Il me semble que le portrait qu'il fait de Flaubert est un autoportrait. Et si je vous permettez, je voudrais lire ce court passage de sa recension. Il est, par tempérament, attiré vers les cieux agrandis de la poésie. Et il reste à terre. Sa raison d'homme, sa volonté d'analyse exacte l'attachent à l'étude des infiniment petits. C'est un titan plein d'haleines énormes qui raconte les mœurs d'une fourmilière en faisant des efforts pour ne pas céder à l'envie de souffler des chants héroïques dans sa grande trompette de bronze. Un poète changé en naturaliste, Homère, devenu Cuvier.
Un poète changé en naturaliste. Merci beaucoup Pierre, à très bientôt.